Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 mars, on commence une nouvelle semaine évidemment sur les ondes de l'autre radio et autour de l'actualité mayonnaise. Avec au menu aujourd'hui, on va parler d'une compétition qui approche très vite, une compétition solidaire qui permettra entre autres de contribuer à la réalisation de rêves d'enfants malades, une course à pied, le trail 7 d'honneur à Château-Gontier qui aura lieu le 10 avril. Et ça y est, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire ou pourquoi pas devenir bénévole aussi pour le jour J. On en parlera d'ici quelques instants. On va également rester en Mayenne, mais par contre bouger dans le temps. Et oui, grâce à Christophe Tropeau et son nouveau livre qui vient de sortir la semaine dernière, ça fait une dizaine de jours, autour de la vie associative en Mayenne entre 1830 et 1930 et comment finalement on en arrive à une organisation aujourd'hui assez dynamique en Mayenne avec pas mal d'associations sportives, culturelles, etc. Mais il faut savoir que ça n'avait rien d'évident, ça n'était pas ouvert à tout le monde au début du 19e siècle et on va voir justement aussi les spécificités peut-être du département sur ce point. Et puis comme chaque lundi tous les 15 jours, on a la chance de pouvoir écouter la chronique de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne, où on va aujourd'hui commencer un abécédaire du racisme, justement, en tout cas contre les discriminations, avec un premier mot, on commence par la lettre A, alors je vous laisse choisir et en tout cas essayer de deviner quel mot pourrait bien commencer cet abécédaire. Ça, ce sera à retrouver plutôt dans une deuxième partie d'émission, puisqu'on va commencer effectivement avec cette course insolite et solidaire à Château-Gontier. Ce sera le 10 avril, le lundi de Pâques, la deuxième édition du trail urbain organisée par l'association 7 d'honneur qui vient en aide aux enfants en situation de handicap. Ils espèrent attirer 600 coureurs et encore plus de supporters le jour J dès 9h-9h30 pour trois courses au programme, dont une un petit peu plus tard dans la matinée réservée aux enfants. Une action qui correspond très bien aux valeurs de l'association, comme l'explique Corentin Chauveau, son président.
L'idée, voilà, ça a été vraiment depuis le départ à la création de l'association, de pouvoir allier le sport pour pouvoir récolter des fonds et faire bénéficier des personnes en situation de handicap. Et avec l'évolution de l'association, on n'a pas trouvé mieux finalement que d'organiser notre propre course, d'où la volonté de pouvoir organiser un trail et étant de Château-Gontier, du coup trail urbain pour pouvoir faire visiter la ville. Donc un trail qu'on a organisé en première édition l'année dernière en 2022, un trail qui avait plutôt bien fonctionné puisque sur nos deux courses, on avait réuni à peu près plus de 350 participants. Et ça nous a donné fortement envie, au vu des retours positifs que nous avions eus, de pouvoir faire une deuxième édition sur cette année. Donc à peu près sur les mêmes formats que l'année dernière, à savoir deux courses, un 5 km et un 11 km, avec la différence sur le 11 km, c'est que le parcours passera d'abord sur les chemins du halage le long de la Mayenne, reviendra finalement par les jardins familiaux, avant de s'attaquer à la partie centre-ville, donc qui est là finalement en commun avec le 5 km, donc autour des lieux emblématiques de Château-Gontier, donc les vieilles ruelles, la montée Saint-Just auprès de la Grande Rue et autres, mais également des spots un peu plus insolites, avec notamment le passage à l'intérieur du cinéma, des halles dans le centre-ville, et aussi du bar-restaurant Le Bistrot dans le centre-ville. Notre association du coup vient financer les rêves d'enfants malades, du matériel adapté pour des personnes en situation de handicap, et l'objectif c'est que l'intégralité des bénéfices soit utilisée pour ça, et donc là en l'occurrence sur cette année 2023, pour le jeune Max, donc Max qui est un Lavallois de 5 ans, qui lui est en situation de handicap moteur, souffre de paralysie cérébrale, et ce qui implique en fait des problèmes, donc oui voilà, des problèmes moteurs mais également dans ses déplacements. Et c'est un jeune qui va avoir besoin de thérapies qui sont tout le temps à l'étranger, donc là situé en Espagne, des thérapies qui coûtent cher, donc on est à peu près à 1000 euros la semaine de thérapie. Donc à 5 ans, l'objectif ce serait de lui financer plusieurs semaines de thérapie qu'il pourrait comme ça lisser sur plusieurs années. Et ce sont des thérapies qui viennent en fait travailler cette question musculaire pour permettre à Max finalement de se libérer un peu au niveau musculaire et de mieux vivre avec son handicap au quotidien. Donc là vraiment, c'est vraiment l'objectif de ce trail, de pouvoir récolter un maximum de fonds pour qu'il puisse faire un maximum de thérapie finalement.
En sachant que les coureurs peuvent s'inscrire jusqu'au 8 avril sur le site internet TimePulse. Vous comptez 8€ pour le 5 km et 10€ pour le 11 km. Et puis si vous avez envie plutôt d'être de l'autre côté, de faire partie des bénévoles le jour J, sachez que l'association 7 Donneurs est toujours à la recherche de bénévoles. Vous pouvez les contacter par leurs réseaux sociaux en cherchant 7 Donneurs ou bien tout simplement sur leur site internet. On va parler effectivement de la vie associative en Mayenne il y a quelques dizaines d'années, au 19e siècle. Ce sera juste après une chanson bien plus actuelle, Danser encore de HK.
Jamais docile ni vraiment sage, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance.
Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Oh non, 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 non,
nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience.
On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Oh non, 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 non,
nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance les instruments de leur démence.
Oh non, 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 nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Oh non, 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 non,
nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps,
passer nos vies sur une grille d'accord.
Danser encore, c'était HK dans la JT du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio et on va poursuivre avec une question. Et oui, comment s'est développée la vie associative en Mayenne au 19e siècle? Et plus précisément, entre 1830 et 1930, c'est tout le sujet du livre publié il y a une dizaine de jours par le Mayennais Christophe Tropeau. Il est professeur d'histoire-géographie au lycée Ambroise Paré à Laval. Et sa voix ne vous sera peut-être pas inconnue puisqu'il participe à l'émission On relève la sauce un jeudi par mois sur nos ondes pour évoquer justement à la fois les cercles de jeu, les fanfares, mais aussi les amicales d'anciens combattants et les clubs sportifs. Et oui, tout ce qu'on pourra retrouver dans cet ouvrage autour de la vie associative entre 1830 et 1930 en Mayenne.
Christophe Tropeau, auteur d'un livre qui s'intitule « Le plaisir du lien, la sociabilité associative rurale en Mayenne des années 1830 aux années 1930 ».
Donc un ouvrage qui vient de sortir il y a quelques jours, mais pourtant, même s'il vient de sortir, c'est le fruit de longues années de recherche aussi, d'une thèse que vous avez écrite il y a une dizaine d'années, c'est ça ?
Alors la thèse, non, je l'ai écrite, je l'ai soutenue en 2020, mais effectivement j'y suis depuis, je l'ai commencé en 2013, donc ça fait effectivement un projet qui a duré sur 7 ans, plus les 2-3 ans pour le transformer en format livre.
Déjà, peut-être question un peu bête, mais pourquoi s'intéresser à ce sujet-là en particulier ?
Alors au début, je voulais, à côté de mon métier de prof d'histoire-géographie dans l'enseignement secondaire, faire de la recherche historique. Donc, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et dans mes études, dans mes concours de préparation, notamment de concours d'enseignement, j'avais rencontré cette question des campagnes en Europe entre 1830 et 1930. Et ayant un métier à côté, je m'étais dit que le principal, c'était quand même d'avoir un fonds d'archives pas très loin, et habitant et vivant à Laval, les archives départementales de la Mayenne s'imposaient. Et je suis allé voir François Plou, qui était un des auteurs des ouvrages que j'avais lus pour la préparation de mon concours, qui a accepté de me diriger et qui m'a proposé de travailler sur les associations rurales. Et donc c'est comme ça que je suis venu sur ce thème du monde associatif rural en Mayenne, parce que habitant et travaillant en Mayenne.
Et est-ce que vous soupçonniez qu'il y avait autant de choses finalement à dire sur ce sujet, autant de formes différentes sur ce siècle en particulier ?
Eh bien non, pas du tout. Ça a été un peu la surprise, et pour moi, une bonne surprise pour moi et pour mon directeur de thèse. Puisqu'en fait, dans la tradition, je dirais, dans les historiens qui ont travaillé précédemment sur ce sujet-là, ont plutôt travaillé sur le sud de la France, l'est de la France, donc qui ont été beaucoup travaillés. Même l'Angleterre est beaucoup travaillée, mais les loisirs, notamment dans la France de l'Ouest, n'étaient pas beaucoup travaillés. Et puis il y avait l'image que la France de l'Ouest, c'est un pays de bocage, avec des paysans qui vivent de manière isolée, donc pas de vie sociale, pas de vie associative. Et en fait, pas du tout, puisque sur la période 1830-1930 que j'ai étudiée, j'ai répertorié près de 600 associations de différentes sortes. Et donc, il y a une vie associative en Mayenne et dans l'ouest de la France, de manière plus générale.
Donc c'est, comme souvent, j'imagine, aussi lié au cliché qu'on peut avoir sur cette époque-là, qui fait qu'il n'y a pas eu forcément d'autres ouvrages et d'autres recherches sur ce sujet-là en particulier.
Oui, alors il y a eu des petits éclairages, des petits articles sur des fanfares, sur les cercles, qui sont la première sorte d'associations qui apparaissent au 1830, mais de manière générale, une étude générale, c'est, je dirais, peut-être la première, mais c'est la première qui vraiment étudie le monde associatif de manière très générale, le monde associatif de loisirs de manière très générale sur la longue durée.
Vous parliez justement de la chronologie, en tout cas, du fait que ce soit entre 1830 et 1930. Forcément, quand on a étudié pendant 7 ans sur le sujet, on ne choisit pas les dates au hasard. Pourquoi avoir choisi ce créneau-là en particulier ?
Ah bah 1830, c'est vraiment le lancement de l'association de loisirs. C'est-à-dire que c'est les années 1830, donc la monarchie de juillet dans le niveau politique, c'est le début de ce qu'on avait appelé les cercles. C'est-à-dire en fait, dans les villages, des notables, des petits groupes de 15-20 personnes qui vont se réunir dans des maisons ou dans des salles privatisées de cabaret pour jouer au billard, pour discuter, pour boire de l'alcool aussi, et puis en extérieur pour jouer à la boule de fort, qui est aussi le sport local, hein, notamment dans le sud du département. Et en fait, on a, à partir des années 1830-1840, c'est vraiment ce format-là d'association de loisirs qui se développe, alors qui est réservé à une catégorie très particulière du village. C'est les notables, c'est le médecin, c'est le notaire, c'est le châtelain, le curé parfois. Mais voilà, ça c'est la première génération d'association qui se met en place. Et j'ai emmené ça jusqu'en 1930, parce que généralement, on considère que la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment une borne qui remet un petit peu en question le fonctionnement social et économique de la France et de l'Europe en général. Et effectivement, en 1930, le constat qu'on peut faire, c'est que le monde associatif, il est incontournable dans le paysage rural, alors que 100 ans auparavant, il n'y avait pas d'association.
Comment on passe justement de ces premiers cercles qui étaient donc réservés vraiment à, j'allais dire l'élite de la population, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas aux notables, comme vous disiez, aux années 30, où là, pour le coup, c'est un incontournable. Et quelles étapes, justement, est-ce qu'on franchit jusqu'à ce fait que ça devienne incontournable ?
Alors là, en fait, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a le premier facteur, il y a l'importance des corps de sapeurs-pompiers, puisque au milieu du 19e siècle, on a une création de corps de sapeurs-pompiers, mais en fait, quand on regarde un petit peu leurs actions, leur fonctionnement, on se rend compte qu'ils ne luttent pas beaucoup contre le feu, parce qu'ils sont loin, c'est très compliqué d'intervenir, mais en fait, ils existent et ils vont développer une sociabilité, un fonctionnement plutôt festif. Ils doivent s'entraîner, ils créent des banquets, et donc on a déjà un début de démocratisation de l'association, puisqu'en fait, on retrouve beaucoup d'artisans, de commerçants dans ces corps de sapeurs-pompiers, qui, avec l'apparition de la Troisième République à partir de 1870, eh bien là, en fait, ces pompiers vont se retrouver souvent chefs de fanfare, ils font de la musique, ils se retrouvent aussi chefs de tir, c'est eux qui vont diriger les associations de tir qui se mettent en place, et les cercles, parfois, eh bien, en fait, mutent, se transforment et deviennent... on se réunit pour jouer au billard et puis progressivement, on fait rentrer un peu plus de gens, on fait de la musique ou on fait du tir. Et puis l'État, je dirais, encourage les villages à créer aussi des sociétés de gymnastique pour former le futur soldat après la défaite contre les Prussiens en 1871. Donc on veut préparer les jeunes garçons. Donc on a, à la fin du 19e siècle, déjà tout un terreau associatif très très développé. Et puis, quand on arrive au début du 20e siècle, là, c'est le sport qui apparaît avec, en partant du tir et de la gymnastique, eh bien on ramène des choses sur le foot juste avant la Première Guerre mondiale. Et puis après, sur les deux dernières décennies de mon étude, on voit les sports un peu plus divers comme le ping-pong, la natation, le basket, le volley, le tennis, enfin voilà, tout ce qu'on connaît, tout le paysage qu'on peut connaître après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours.
C'est ça, finalement, les clubs, notamment sportifs, qu'on connaît aujourd'hui, la plupart, en tout cas les sports, sont vraiment arrivés dans les années 20.
Oui.
C'est ça, les années 30.
Années 30. Jusque dans les années 20, on reste encore très marqué par la préparation militaire. On sort de la Première Guerre mondiale et on sent qu'on reste quand même encore sur la préparation militaire, gymnastique, tir. Et puis, il y a peut-être un côté aussi pacifiste. Et alors, les associations d'anciens combattants jouent aussi un rôle plutôt pacifiste en France. Donc, on se détache progressivement de cette préparation militaire pour aller vers des activités sportives moins attachés à la préparation militaire, comme le foot, comme le basket ou le ping-pong, qui n'ont aucun intérêt, ou même le vélo, j'ai oublié le vélo, c'est important en Mayenne, qui se développe avec des vélodromes, des équipements sportifs qui apparaissent avec des stades de foot spécifiques, alors qu'avant on jouait dans un champ, avec des salles de sport, avec des équipements, des municipalités qui investissent dans des investissements, des équipements, des vestiaires, hein, ça n'existait pas auparavant. Donc vraiment, les années 30, c'est vraiment je m'arrête là, mais en fait, le paysage sportif que l'on a dans les années 30, c'est le paysage un petit peu sportif qu'on connaît aujourd'hui avec des équipements, mais aussi des championnats, des compétitions qu'on connaît aujourd'hui.
Et donc tout ça se lance effectivement dans les années 30. Déjà, le fait que, par exemple, il y ait quasiment un stade de foot dans chaque commune, est-ce que c'était déjà le cas dans les années 30 ou c'est arrivé un petit peu plus tard ?
Alors après, la multiplication des équipements, je pense que c'est après, je pense, la Seconde Guerre mondiale, mais tout chef-lieu de canton a, dans les années 30, une équipe de foot. On a des championnats qui se mettent en place. Alors, il y a aussi l'importance du train, puisqu'en fait, les déplacements pour aller jouer contre les équipes adverses, l'automobile n'est pas encore très développée. Et si on veut aller jouer à 20, 30 km, le train, la ligne de train est importante. Les équipes se déplacent encore beaucoup en train. Donc, les chefs-lieux de canton sont avantagés, parce que généralement, c'est là où est la gare du canton. Donc, ces équipements sportifs, oui, se développent beaucoup dans les années 1930.
Donc c'est lié effectivement au mode de déplacement, et j'imagine que c'est lié aussi, on parle pas mal des années 30, au fait d'avoir quand même cette possibilité d'avoir des loisirs, d'avoir du temps libre aussi, enfin en tout cas de manière démocratisée, et que le plus de personnes possible aient accès à ça.
Alors en Mayenne, on reste quand même dans un département plutôt rural où le temps de loisir. Alors ce qui est vrai, c'est que les sports notamment vont beaucoup se développer dans certains bastions industriels. Je pense notamment aux mines d'ardoise de Renazé où on a beaucoup un foisonnement d'associations sportives très diversifiées. Je peux aussi penser à la fonderie de Port-Brié ou même à l'usine de tissage de Fontaine-Daniel. On a des pôles comme ça industriels où on a une activité associative sportive mais culturelle, musicale très importante. Après, effectivement, le reste, par exemple, le monde agricole est assez extérieur à ce courant associatif. Les paysans, on les voit rentrer en association plutôt grâce aux amicales d'anciens combattants. Mais auparavant, ils sont plutôt assez discrets, voire absents. C'est plutôt des commerçants, des artisans qui vont être animateurs et membres actifs des associations. Donc, le temps de loisir, il dépend encore beaucoup du temps agricole, et le temps agricole, encore à l'époque, ne donne pas beaucoup de temps de loisir.
Justement, vous avez cité forcément certains endroits par rapport aux usines, par rapport aux mines qui existaient, qui étaient des endroits forts de cette vie associative. Dans le département, j'imagine que c'était pas uniforme. Est-ce qu'il y avait d'autres poches comme ça, si j'ose dire, de vraiment un foisonnement associatif, ou à l'inverse d'autres endroits où c'était quasiment inexistant?
Alors, ce que j'ai pu remarquer, c'est un des points de mes conclusions, c'est qu'on a une influence angevine. C'est-à-dire qu'en fait, je parlais des cercles, et les cercles des années 1830, en fait, c'est une mode a priori qui vient de l'Angleterre qui vient par des marchands qui ont travaillé avec des l'Anjou. Et en fait, à partir d'Angers, on a cette diffusion de ce modèle de cercle. Donc les cercles sont très présents dans toute la région entre Cran, Château-Gontier jusqu'à Saint-Denis-d'Anjou, l'ancienne partie angevine de la Mayenne. Et ça se retrouve après par la suite, c'est là où on a aussi pas mal de compagnies de sapeurs-pompiers, c'est là où on va trouver pas mal de fanfares. Alors le reste du département est aussi concerné, mais c'est vrai qu'on a une plus forte densité dans le sud du département.
Et puis, autre question aussi que je me posais, puisqu'on a parlé beaucoup d'hommes, de garçons dans ces associations, à quel moment est-ce que les femmes, justement, vont aussi intégrer ce milieu associatif? Est-ce que ce n'est pas encore jusqu'à ces années 30? Est-ce que ce sera après la Seconde Guerre mondiale ou pas?
Alors, j'y consacre une partie, effectivement, de mon ouvrage sur la place des femmes. La place des femmes, si je prends l'exemple des cercles, elles sont reléguées au rang de concierges, puisque ces cercles ont des employés, mais en fait, elles ne sont pas membres actives. Et les femmes, les femmes notables, qu'elles soient des veuves ou des châtelaines, on peut les retrouver comme membres honoraires, comme soutien de fanfare, mais jamais en tant que membres actives. Et il faut vraiment attendre le début du XXe siècle, notamment dans le milieu catholique, où on a quelques patronages qui s'ouvrent aussi aux filles, où on a une activité notamment d'amicales d'anciennes élèves d'école, privées comme laïques, qui mettent en place des groupes de théâtre ou de chant. Et donc ça va se mettre en place progressivement. Mais sinon, au niveau associatif, globalement, les femmes sont particulièrement absentes, même dans le monde sportif. Le sport féminin n'existe pas, en Mayenne en tout cas, avant la Seconde Guerre mondiale. Ça, ce n'est qu'après qu'on va avoir cet essor et cette implication féminine dans le monde associatif.
Mais c'est peut-être pas spécifique à la Mayenne,
non,
d'ailleurs.
Ça
se retrouve aussi dans d'autres
départements. Oui, c'est une application. C'est de fait, comme notamment les sociétés de préparation militaire sont faites pour les garçons, parce que la guerre est faite par les garçons. Les anciens combattants, forcément, il n'y a pas de femmes non plus. Donc en fait, la nature associative fait que les femmes en sont exclues. On aurait pu imaginer des filles ou des femmes dans les fanfares, mais là aussi, toujours un aspect militaire qui fait que les femmes en sont exclues. Et puis les femmes, en Mayenne, sont quand même essentiellement encore des femmes qui travaillent dans l'agriculture, qui ont peu de temps. Il faut payer aussi une cotisation, généralement. Et donc les femmes sont moins bien payées que les hommes, donc elles ne vont pas non plus payer une cotisation associative. Et puis il y a tout l'aspect vie familiale qui fait qu'elles n'ont pas beaucoup de temps libre, donc du temps pour le loisir.
Est-ce qu'il y a, dans toute cette évolution qu'on a retracée, vraiment des choses qui sont spécifiques à la Mayenne, au département, ou on va dire à l'Ouest en général, par rapport aux études qui avaient été faites justement dans le sud de la France ou dans d'autres endroits du pays ?
C'est vrai que ce qui était vu avant par les historiens de la France du Sud et de l'Est, c'était l'idée que les paysans, par exemple, n'étant pas regroupés dans un bourg, n'avaient pas de vie associative. Alors certes, en Mayenne, les paysans vivent dans le bocage, dans des fermes isolées, mais il ne faut pas oublier que dans le bourg, on a des commerçants, des artisans, et c'est vraiment, j'insiste, c'est vraiment eux qui vont faire vivre, qui vont, même d'ailleurs, avec l'effondrement démographique de la Mayenne, un peu avec les zones rurales, vont récupérer cette animation qui était avant tenue par des veillées le soir, ou par des fêtes de village. Là, ils vont récupérer cette animation rurale par le biais de manifestations, par le biais d'associations. Et donc, c'est un peu une... Je ne sais pas si c'est une spécificité, mais en tout cas, c'est une particularité de la Mayenne et de la France de l'Ouest, avec cette implication, cette importance des commerçants et des artisans dans l'animation rurale.
Et pour en savoir plus, eh bien, je vous invite à lire cet ouvrage paru aux Presses universitaires de Rennes. Il est disponible dans toutes les librairies en Mayenne. Et pour rappel, donc, il s'intitule « Le plaisir du lien, la sociabilité associative rurale en Mayenne des années 1830 aux années 1930 ». Et il a été écrit par Christophe Troupeau. On fait une petite pause en musique avec Mac Miller et on revient juste après avec la chronique des droits de l'homme en Mayenne. J'espère que vous avez trouvé l'abécédaire, la lettre A, votre avis de quoi on va parler. Eh bien, il vous reste 3 minutes pour le trouver.
Might just turn around, do 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. It's the devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Yeah, okay, cool as fall weather. Fuck the bullshit, I'm here to make it all better with a little music for you. I don't do enough for you. Without you, it's the color blue. Oh, don't trip. I was in the city, they was talking that shit. Had the homies with me, all of a sudden they split. We ain't even worried, we just laughing, that's rich. You know how it goes, it ain't broke, don't fix. Hey, one of these days, we'll all get by. Don't be afraid, don't fall. Think I lost my mind. Reality so hard to find. When the devil tryna call your line, shit, I always shine. Even when it light dim. No, I ain't God, but I'm feeling just like him. Oh, don't trip. See, I was in the whip riding me and my bitch. We was listening to us, no one else, that's it. It's a flex, just a bit. Let me talk my shit, say my head got bit. Yeah, well, this mad world made me crazy. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. Devil on my doorstep being so shady. Don't trip. We don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. It's the devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Hey.
C'était Blue World Mac Miller dans l'agité du local sur l'autre radio. Et c'est l'heure de retrouver la chronique de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne sous un nouveau format, vous l'avez compris. Et aujourd'hui, la Ligue des droits de l'homme en Mayenne lance une sorte de chronique dans la chronique, un abécédaire autour de la lutte contre le racisme.
Oui, effectivement, la lutte contre le racisme. Pourquoi cet abécédaire sur la lutte contre le racisme? Parce que le racisme est un des piliers de l'action de la Ligue des droits de l'homme. Alors aujourd'hui, eh bien, on va commencer cet abécédaire par la lettre A et on va voir A comme antisémitisme. Alors il s'agit pour nous de décrire un phénomène historique sans remonter très loin dans le temps, de manière à ne garder que ce qui concerne les débats actuels, hein, et surtout de nommer là en l'occurrence l'antisémitisme comme fait social et politique et d'évoquer le droit. Alors cet abécédaire, c'est une manière en quelque sorte pour nous de dénoncer et de combattre le racisme. Donc aujourd'hui, A comme antisémitisme. En fait, le terme n'est pas très vieux, il remonte à 1879. Il a été créé en Allemagne. Le terme renvoie à une attitude d'hostilité haineuse à l'égard des Juifs, quel que soit le motif de cette hostilité. Alors quand on dit ça, on se dit que l'antisémitisme est beaucoup plus ancien que le terme, qui est plutôt récent. Mais on ne va pas évoquer ici l'animosité chrétienne à l'égard des Juifs durant le Moyen-Âge, hein, parce que ça n'a pas de grand intérêt aujourd'hui. Personne aujourd'hui n'irait dire on est antisémite parce qu'on reproche aux Juifs d'avoir crucifié Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Hein, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans cette thématique-là. Alors je vais m'intéresser aussi, ici là, aux dénominations et aux formes modernes de racisme envers les Juifs. Alors le 19e siècle, 1879, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à cette époque-là? Bon, c'est la montée des nationalismes, c'est la montée aussi de ce qu'on appelle le scientisme, le développement des théories sur les races. Il y a aussi la montée de la linguistique, le développement des théories sur les différentes branches linguistiques. Ces mythes, ça renvoie à une branche linguistique qui correspond à l'hébreu, l'arabe, l'araméen. Et puis, il y a une autre branche linguistique qui s'appelle l'indo-européen, qui correspond au latin, aux langues latines, aux langues germaniques. Bon, voilà, tout ça fait que surgit ce terme antisémitique. Dans un premier temps, il est relayé par la gauche, en France, plutôt par la gauche, pour dénoncer la puissance financière. Face aux montées du nationalisme, la gauche, elle vise le fait que ce soit en Angleterre, en France, en Allemagne, il y a des banquiers juifs, d'essayer de montrer qu'il y a une espèce de lobby financier, et ce lobby financier est porté par les juifs, ce qui n'est pas du tout vrai, quoi. Il y a des banquiers juifs, mais il n'y a pas que des banquiers juifs. Et puis à la fin du 19e siècle, c'est plutôt l'extrême droite conservatrice qui reprend ce terme. Les antisémites accusent les juifs de complots internationaux. C'est ce qui va donner lieu à l'affaire Dreyfus. Je rappelle, c'est le fait d'accuser un capitaine d'artillerie d'être espion pour l'Allemagne. Et puis arrive le terme de race qui sera utilisé sous la Troisième République et va rentrer dans le domaine juridique sous le régime de Vichy, au travers des lois portant sur le statut des Juifs. Donc on connaît ce qu'on connaît de cette période-là, de cette période sombre, c'est les mesures anti-juives. Donc la plus connue, l'étoile jaune. Mais le fait que la notion juive devait être portée sur les cartes d'identité. Ce qu'on sait moins aussi, c'est que les juifs qui vivaient en Algérie, on leur a retiré la nationalité française. Alors l'ampleur des crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale par le nazisme confère bien une spécificité à l'antisémitisme. Mais il faut préciser que le racisme des nazis s'appliquait principalement à des populations blanches. Un nouveau fantasme suit l'hégémonie d'une élite de la race en fonction de la pureté du sang. Donc les Juifs sont évacués de ce schéma-là. Arrive l'après-guerre, 1948, c'est la création de l'État d'Israël. Et cette création va alimenter ce qu'on va appeler petit à petit le négationnisme. Le négationnisme, c'est ce courant qui nie la réalité des chambres à gaz, la réalité du génocide. Et la thèse négationniste, c'est de dire que tout ça, c'est un complot juif pour permettre la création de l'État d'Israël. Il y aura toujours, jusqu'à aujourd'hui, une ambiguïté sur cet État d'Israël. On entend dans les débats et dans les actualités les difficultés que rencontrent les Palestiniens, qui sont de nationalité israélienne. Mais on sent l'ambiguïté entre le fait qu'il y a cette colonisation des parties palestiniennes avec le fait qu'Israël est un État juif. Donc la qualité, si je puis dire, de juif revient aussi sur le devant de la scène. Que reprochent les antisémites ? Ils reprochent aux juifs d'être juifs, tout simplement. Avec tous les fantasmes que l'on colle sur l'autre, parce que le juif, du coup, c'est l'autre. Tous les fantasmes qu'on colle sur l'autre, donc dans ce petit historique bref, là, c'est le complotisme international, la juiverie, c'est le lobbying financier, hein, les sales juifs, c'est celui qui est impur par rapport à la race blanche, c'est le youpin. Tous les fantasmes qui sont collés sur les juifs, sur l'autre, sont collés sur les juifs par les antisémites. Alors que dit le droit face à ça ? Tout ce qui est provocation, diffamation, injure publique, hein, relève du correctionnel. Donc c'est un délit. Il peut y avoir des peines de prison. Un an de prison, 45 000 euros d'amende, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. L'apologie de crimes contre l'humanité, c'est-à-dire dire bah, c'est pas si mal que ça d'éliminer, parce qu'on entend des fois dans des discours, bah oui, mais ils auraient pu achever les choses, quoi. Si on avait pu s'en éliminer encore plus, on serait vraiment débarrassé. C'est de l'apologie, hein, de crimes. C'est un délit qui peut valoir 5 ans d'emprisonnement. La contestation des crimes contre l'humanité, ce que j'évoquais tout à l'heure avec le négationnisme. Pareil, 5 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Donc on peut dire que l'antisémitisme, il n'y a pas de hiérarchie à faire entre les racismes. L'antisémitisme est une forme de racisme qui a comme objet les juifs, qu'ils soient pratiquants ou non d'ailleurs, parce que la question n'est pas posée par les gens qui sont antisémites. Mais heureusement, ça rentre dans le droit français et dans la Constitution française où nul ne peut être inquiété pour ses opinions, sa confession, sa religion et ses prétendues origines.
Merci beaucoup pour cette chronique. Alors ce format d'ABCDR, vous le retrouverez pas à chaque chronique de la Ligue des droits de l'homme, mais il va nous accompagner quand même jusqu'à la fin de la saison, puisque la prochaine chronique en tout cas de la Ligue des droits de l'homme, ça c'est sûr, ce sera lundi dans 15 jours. Puisque c'est la fin de notre émission L'Agité du local pour ce lundi, mais restez à l'écoute de l'autre radio, puisqu'à 19h ce soir il y aura Solénoïde, ce sera suivi à 20h de la discothèque du programmateur. Nous on revient demain midi. Je vous souhaite une très belle journée.